Formidable à la nouvelle Bible MacArthur. Vous aimez ceux qui l'ont là. Des belles choses dedans. Hein? Je vous recommande, vous qui écoutez sur Internet, sachez qu'il y a une nouvelle Bible qui est sortie. C'est toujours la seconde, mais il y a les commentaires de MacArthur. Pas McDonald's, MacArthur. Et je vous la recommande. Bon, il ne croit pas dans les dons de l'esprit. C'est-à-dire, il ne croit pas que nous avons le pouvoir encore, au nom du Seigneur Jésus, de guérir les malades, par exemple. Je ne crois pas ça. Bon, ça regarde. Hein. Moi, je ne comprends pas ces théologiens qui enseignent la prière, mais qui ne s'attendent pas à des exaucements. Je trouve ça, c'est un non-sens. Si on prie sans s'attendre à l'exaucement, je ne comprends pas. Pourquoi prier, alors? C'est du temps perdu. Et puis, s'il y a des exaucements, le moindre exaucement, c'est un miracle. Alors, comment ne pas croire? Enfin, c'est un non-sens. Je ne veux même pas essayer de comprendre. C'est impossible. Pour moi, c'est un non-sens. Voilà. Bon, Matthieu chapitre 10, versets 11 à 14 ce matin. Dans quelque ville ou village où que vous entriez, bientôt avec la Michou, on va entrer dans des villages et des villes. Dans des villages comme vous n'avez jamais vu la plupart d'entre vous. Il faut que vous veniez voir d'ailleurs. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir. Vous voyez, c'est... Est-ce que ces gens sont dignes de me recevoir? Voilà, c'est... Hein, vous voyez l'humilité? Voilà, c'est ça. Hein. Et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Ça, c'est une pléonasme. Hein. Demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais... s'il n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen. Dieu soit béni. Oui, c'est donc le dernier culte avant 3 semaines. Je vais partir avec Michou là-bas au Burkina Faso, avec Nicolas qui a déjà tout préparé là-bas. Et pas seulement lui, mais sa femme a aussi beaucoup préparé beaucoup de choses. Et puis nous allons revoir tous les pasteurs qui sont venus ici en France. Nous allons, c'est-à-dire nous ensemble, hein, puisque c'est, je ne suis pas tout seul dans cette affaire, mais vous êtes liés avec moi. Nous allons les inviter à manger dans un bon repas à la française. Et on va partager avec eux et vivre quelque chose de fort avec eux. Je me réjouis beaucoup. Et puis nous allons aller dans la brousse. Et Marc Croza et Kylian Croza vont nous rejoindre avec Mathieu Monet. Mathieu Monet sera du voyage. Donc voilà, on aura en plus des chants. Et ça sera formidable. Je me réjouis que notre sœur Lydie vienne aussi chanter avec nous. Et les autres aussi, Olivier. Et tout. Nous avons une professionnelle parmi nous. Est-ce que vous avez déjà entendu son disque? Est-ce que vous l'avez acheté? C'est terrible. Il faut acheter le disque de Lydie. C'est le plus beau disque du monde. C'est la première artiste de la communauté. Moi, je l'ai déjà mis sur mon iPod. Mon iPod, excusez-moi. Il faut acheter le disque de Lydie. Qui c'est qui va l'acheter? Bon, tu as des clients déjà, hein? C'est bien. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est un véritable talent. Et je prie pour que ça marche fort, 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 et qu'elle puisse s'infiltrer dans le milieu du showbiz, et puis témoigner, rendre grâce à Jésus là-bas au milieu, et puis que les gens soient sauvés. C'est notre but. Et puis que le public sache qu'il y a des chrétiens dans ce milieu. C'est formidable. Dans tous les milieux, il faut que les chrétiens s'infiltrent pour apporter la paix. Comme disait T.L. Osborne l'autre jour, le gouvernement peut créer des lois pour punir ceux qui font le mal, mais elle ne peut pas créer des lois pour que les gens deviennent meilleurs. Ça, c'est notre boulot. Ça, c'est notre travail, de faire que les gens deviennent meilleurs. En leur témoignant de l'amour de Jésus-Christ en parole et en action, alors ça les inspire, ils peuvent se convertir et changer de vie. Et il n'y a que nous qui faisons ça. Le gouvernement ne peut pas le faire. Il peut juste faire des lois pour punir ceux qui ne veulent pas de Jésus et qui font n'importe quoi. Et qui font des choses répréhensibles. Que Dieu soit béni pour cette parole de ce matin que nous avons lue. Vous savez bien, quand je prêche, c'est toujours parce que j'ai pensé à quelque chose dans la semaine, j'ai réfléchi, je me suis trouvé confronté à des situations, et alors évidemment, ça ressort dans la semaine. Vous ne pensez pas que je vous vise vous personnellement, mais quand même aussi un petit peu. Parce que si je prêche uniquement pour les gens qui nous écoutent sur Internet, hein, c'est aussi pour vous, et pour moi aussi, bien sûr, parce que j'ai autant besoin de vous que vous de la parole de Dieu. Si vous vous sentez visé, ben tant mieux, comme ça vous allez pouvoir progresser. Si vous ne vous sentez pas concerné, bon, ben alors pourquoi venir? C'est comme la prière qui n'est pas exaucée, ça ne sert à rien. Hein? C'est un non-sens. Donc cette semaine, je réfléchissais, parce que j'ai parlé à plusieurs d'entre vous, mais pas seulement à vous. J'ai aussi rencontré d'autres personnes à qui j'ai parlé, et puis je les ai écoutées, j'ai écouté beaucoup de choses. Et puis après, je suis rentré dans mon bureau, j'ai repensé à tout ça, j'ai médité, j'ai pris des notes. Et une pensée est venue à moi, et bizarre. Vous savez que je suis un être bizarre. Les paroles les plus destructives ne sont pas celles qu'on vous dit, mais c'est plutôt celles que vous vous dites à vous-même. Jésus savait très bien que ses disciples seraient rejetés souvent. Alors, il a pourvu, il nous a donné le remède. Le remède le plus efficace pour faire face au rejet. Le remède le plus efficace à la mauvaise volonté des autres. Le remède le plus efficace à la mauvaise foi de certains, à leur cynisme, à leur mépris. Le meilleur remède, ça vient toujours de Jésus. Il dit, secouez la poussière de vos sandales. Les disciples de Jésus sont généralement des gens forts, c'est-à-dire sensibles. C'est-à-dire non blindés contre la dureté de ce monde ambiant. Les gens faibles sont blindés parce qu'ils se sont blindés. Les gens faibles sont ceux qui manquent de sagesse, qui marchent avec des souliers à clous, là où les anges n'osent même pas poser leur regard. Les gens faibles sont ceux qui se croient forts, sont ceux qui n'ont pas la conscience de leur petitesse. Les gens faibles sont les insensés de ce monde, ceux qui disent « il n'y a pas de Dieu ». La Bible dit « l'insensé dit dans son cœur « il n'y a pas de Dieu ». Le disciple de Jésus, par contre, c'est une personne qui est forte parce qu'elle est humble. Jésus a dit qu'il était doux et humble de cœur. Et ça, c'est, on pense exactement le contraire. Un homme fort, ça doit pas être un homme doux et humble dans ce monde de brutes. C'est pas ce qu'on pense généralement. Et Jésus, qui était l'homme le plus fort que la terre ait porté, il était doux et humble de cœur. Et un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui compte sur l'aide de Dieu pour parvenir à la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il a conscience de qui il est, des progrès qu'il a à faire, mais il ne culpabilise pas. Il n'est pas gêné. Il n'est pas toujours en train de s'excuser. Non. Il est dans un processus. Les forts, ce sont ceux qui ont accueilli le Saint-Esprit en eux, parce qu'ils se sont reconnus pauvres. Alors, ils ont dit, Seigneur, j'ai besoin de ta richesse. Et ils sont entrés dans ce processus de la fortification. Et c'est à eux, c'est-à-dire à nous, qui aimons Jésus et qui nous efforçons de le suivre jour après jour, que le Maître dit, que Jésus dit, ne vous arrêtez pas là. Ne commencez pas à pleurnicher. Ne murmurez pas en disant que vous êtes seul au monde. Je suis le mal-aimé. Levez les yeux vers moi. Pensez à moi comme modèle. Secouez la poussière de vos sandales. Ça ne signifie pas mépriser l'insulte. Ça ne signifie pas mépriser celui qui vous insulte, qui vous méprise. Ça signifie n'en fais pas l'objet de ta méditation quotidienne. Laisse tomber. Laisse béton. Laisse tomber et avance vers le but que Jésus t'a fixé. C'est ça que ça veut dire. Secouez la poussière de vos sandales. Il y aura toujours quelque part, mon frère, ma sœur, quelqu'un qui aura besoin de toi, à toi d'aller le chercher. Il y aura toujours quelqu'un sur cette terre qui saura apprécier ta personne, ton message, ton aide, ta particularité, ton amour, ton talent. Il y aura toujours quelque part dans ce vaste monde quelqu'un pour aimer ce que Dieu a déposé en toi. Il y aura toujours. Alors on ne reste pas là, fixé, hypnotisé par les paroles qu'on t'a dites et ou les actions dont tu as été plus ou moins la victime. Ne focalise pas là-dessus. Va de l'avant. Il y aura toujours quelque part, peut-être pas très très loin, quelqu'un qui saura reconnaître ta valeur et louer Dieu pour la personne que tu es, et louer Dieu pour le fait de t'avoir rencontré. Alors, secoue la poussière de tes sandales. Pense à autre chose. Consacre-toi à d'autres personnes. Certains te méprisent.
Bouf.
Jésus, la personne la plus parfaite que la terre ait portée, a été méprisé par le plus grand nombre. Le plus grand nombre. Hein?
Bouf.
Il a secoué la poussière de ses sandales. Il savait. Il avait la connaissance. Il ne s'illusionnait pas. Alors, justement, à cause de cette connaissance, il était prudent et il s'adressait aux gens selon ce qu'ils étaient capables d'entendre. Marc 4, 33. Ça nous apprend que des fois aussi, les gens nous méprisent parce qu'on ne fait pas attention de leur parler ou de se manifester de la manière dont ils sont capables de nous entendre, de nous recevoir. C'est ça aussi, il faut apprendre, il ne faut pas simplement dire « Non, mais je ne m'aime pas. » Oui, mais pourquoi ? Jésus ne l'aimait pas sans cause. Et encore, vous savez, à partir du moment où vous voulez faire le bien, à partir du moment où vous voulez vous sanctifier, les gens ne vous aiment pas parce que votre vie les accuse, donc c'est jamais sans cause vraiment que les gens ne vous aiment pas. Disons que normalement, on ne devrait pas aimer les gens qui sont méchants, mais de tout temps, l'homme ne supporte pas les gens de bien parce que ça les accuse. Vos bonnes œuvres les accusent. Jésus était prudent et puis il allait ailleurs. Combien de fois on voit dans la Bible que Jésus est parti, il est parti ailleurs, il était voir ailleurs. Passons de l'autre bord, dit-il un jour, Marc 16, 35. Allons de l'autre côté, allons voir ailleurs. Il y en a d'autres. Et puis il est arrivé là, puis les gens l'ont nouveau chassé. Est-ce qu'il a dit non, je reste? Non, il est parti. Alors, bien sûr, votre richesse intérieure n'est pas encore pleinement manifestée comme celle que Jésus possédait, mais vous savez qu'elle est bien là. Elle est dans votre cœur, cette richesse intérieure. L'autre jour, je disais à quelqu'un, « Oh, je suis content d'être vieux maintenant, parce que quand j'étais jeune, j'étais aussi bien que maintenant, seulement personne ne le savait. » Maintenant, il y a des gens qui le savent, qu'il y a des bonnes choses en moi, parce que avec l'expérience, puis les choses que j'ai pu manifester, maintenant, il y a beaucoup de gens qui savent que j'ai quelque chose. Mais quand j'étais jeune, on ne le savait pas. Vous, vous savez, nous savons, on sait que nous avons, que Dieu a déposé quelque chose dans notre cœur. Mais ne soyez pas étonnés que certains ne vous comprennent pas. Que certains méprisent ce que Dieu a mis dans votre cœur, vous rejettent. Ça n'empêche que votre richesse intérieure, elle est bien là, elle est dans votre cœur. Ça, vous ne devez pas remettre ça en question, parce que les gens pensent que à votre sujet. Parce que les gens pensent. Frères et sœurs, cette chose merveilleuse, ce dépôt que Dieu a fait en toi, cette richesse intérieure, elle est bien là parce que tu es l'œuvre de Dieu, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Et ce qui te détruit, c'est pas ce que les gens disent ou ce que les gens te font, c'est ton dialogue négatif intérieur. C'est ce que tu te dis qui te détruit. Alors, il faut que tu sois en harmonie avec ta foi, qu'il y ait une cohérence. Le Seigneur est en toi, et si tu vas vers les autres avec son esprit, et qu'ils ne te reçoivent pas, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est lui. Maintenant, c'est facile de dire, je vais vers les gens avec son esprit. Avec son esprit, ça veut dire avec douceur, avec gentillesse, avec une bonne intention, avec tout cet amour. Par contre, sois bien certain que c'est Jésus qui t'anime. Sois bien certain que c'est Jésus qui tient ta langue, que c'est Jésus qui dicte tes attitudes, que c'est Jésus qui te pousse à l'action quand tu rencontres les autres. Parce qu'il se peut que tu t'illusionnes en disant « Oui, moi je suis rempli d'amour, alors j'y dis. T'es un gros con, je te le dis par amour pour que tu changes. » Est-ce que c'est comme ça que Jésus a l'habitude de parler? Non, pas trop. Je fais exprès de dire un gros mot, comme ça vous allez vous souvenir. Si c'est dans l'amour que tu vas et que tu es rejeté, si personne n'acclame Dieu qui est en toi, eh bien, acclame-le toi-même. Pourquoi attendre que ce soit toujours les autres? Si personne ne t'offre de cadeau, offre-t'en toi-même. Moi, quand on m'embête, je vais à Paris et puis je m'achète quelque chose. Ça me fait plaisir. Voilà, c'est pour ça que j'ai plein de choses. Si personne ne t'offre de cadeau, mais fais-toi des cadeaux toi-même. Moi, des fois, je pousse le vice à... Les gens disent, faut l'emballer. Oui, c'est pour offrir, c'est pour offrir. Ah, c'est pour moi. Mais je me l'offre, je me fais un beau papier cadeau en plus. Fais-toi plaisir. N'attends pas que ça vienne toujours des autres. On est très souvent déçus par les autres. Ceux qui te rejettent, ou simplement qui ne te comprennent pas, qui te méprisent, qui sont légers, peut-être qu'ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont comme ça avec toi. Parce qu'ils sont lourdos, parce qu'ils sont légers. Vous voyez, lourdos ou légers, mais c'est désagréable ces gens-là. C'est terrible, ça fait du mal, ça blesse. Ils sont superficiels. N'en tiens pas compte. Secours la poussière de tes sandales. En parlant de sandales, j'ai regardé sur Internet, il y a un site pour comment rater sa vie. Et ils disent qu'ils sont une secte. Alors il y a des commandements, il y a des lois, il y a des règlements. Comment rater sa vie? Alors ils disent par exemple, en parlant de sandales, que il y a un bon métier en ce moment qui marche très très fort, c'est vendeur de sandales au Canada en hiver. J'ai trouvé ça génial. Ou alors vous avez un autre métier, c'est tireur de chasse d'eau. Bon, vous êtes sûr de rater là, hein? Il n'y a pas grand chose à faire, les gens en général font ça. Excusez-moi cette parenthèse, ça, c'est une association d'idées qui est charnelle, je sais, mais je suis charnel. Il faut me prendre comme je suis. Ouais. Si vous n'avez pas envie d'entendre ça, allez voir ailleurs. Il y a une chanson qui dit aussi, si vous n'aimez pas ça, ne dégoûtez pas les autres. Voilà, moi il y a des gens qui m'aiment bien, parce que justement je suis un peu spécial. Voilà, si vous n'aimez pas, ben, tant pis, si vous aimez bien ce qui pleurniche, voilà. Ne tenez pas compte des choses négatives que les gens disent à votre sujet. Ne laissez personne vous définir. Ce n'est pas ce qu'ils pensent de toi qui est important. C'est ce que tu penses de toi-même qui est important. Pourquoi est-ce que tu serais ébranlé? Par contre, il se peut que les autres te rejettent pour une bonne raison. Alors là... Mais là encore, sois conduit par le Saint-Esprit, c'est-à-dire reconnais ta faute, et puis relève-toi. De toute façon, toi et les autres, on est tous des pécheurs. On est tous des pécheurs, sans exception, sans aucune. On est limités, tous, on est imparfaits, tous. Ne laisse pas les autres te définir. Ne te coule pas dans leur moule en disant, je suis comme ça parce qu'ils l'ont dit. Ne laisse pas les autres ni leurs remarques avoir une influence négative sur ton moral. Cesse de laisser ce complexe du mal-aimé prendre le dessus. Je suis le mal-aimé, oui, le mal-aimé. Personne ne m'aime. Ne remets pas en question l'amour des frères et sœurs de la communauté. Ne remets pas ça en question. Jamais. Ça te fait perdre tes moyens et tu cesses d'être aimable quand tu fais ça. Alors, pourquoi perdre tes moyens? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas aimé, mais tu n'es pas aimable. Vous voyez la différence? Vous voyez la nuance? On peut être aimé, mais ne pas être aimable. Dans le monde, c'est très rare de trouver une personne qui soit capable de faire le tri entre ce que les gens lui disent et faire le tri dans la façon dont ça a été dit et en plus de pouvoir tirer du bien de tout ça. C'est très rare, il faut être très équilibré. Est-ce que vous ne pensez pas que ça serait un défi à relever, le Saint-Esprit étant en nous, le Saint-Esprit étant là pour nous conduire jusqu'à la maîtrise de soi, ne pensez-vous pas que ce serait bien, ça serait d'un grand avantage pour vous et pour tous ceux qui vous entourent, que d'être maître de ce que les autres disent de vous? Ne pensez pas que ce serait un grand avantage pour vous et pour tout le monde? Être maître de ce que les gens disent de vous, c'est-à-dire de ne pas devenir l'esclave de ce que les gens disent de vous. Ne soyez pas l'esclave de ce qu'on dit de vous. Hein? J'étais jeune. On disait, Michel, il sert le Seigneur parce qu'il est intéressé par l'argent. Voilà. Et puis après, les mêmes viennent des années après, ils visitent le château, les mêmes, hein, ils disent, oh, quelle chance tu as d'avoir un château comme ça. Ou d'autres, un peu plus spirituels. Quelle bénédiction!
Les autres, les gens.
Ne vous laissez pas définir par les gens. Vous sachez où vous en êtes avec Dieu, c'est ça le principal. Et les autres. Si une personne te rejette, si une personne te reçoit mal, c'est qu'elle a un problème. Parce que quelqu'un rempli du Saint-Esprit n'a pas à te rejeter. Tu peux être rejeté, mais tu peux peut-être résoudre une partie de ce problème. Peut-être que tu as poussé à bout la personne qui te rejette. Peut-être que cette personne, tu l'as tellement embêtée que finalement, elle dit « Oh, ben j'en ai ras-le-bol !» C'est arrivé avec certains. Il y a certains, certaines personnes, une fois, deux fois, 10 fois, 70 fois, 70 fois, 100 fois, voilà. Je mets au défi quiconque ne vit pas en communauté de me jeter la pierre. Il y a des personnes, next, comme dit Marc. Ras-le-bol, il y en a marre, vous pouvez rien en tirer. Ben next. Ça sert à rien de se laisser ruiner. Mais quand même, avant d'en arriver à ce point-là, au moins 25 ans, hein. 25 ans. Pousser à bout. Peut-être c'est toi qui as poussé à bout les gens, alors à toi de convertir la situation par ton humilité, disant, bon, je reconnais, c'est vrai, voilà. Je vais m'efforcer maintenant de changer, je ne suis pas, quand même, c'est pas possible. Tout le monde dit ça de moi. Il doit y avoir quand même quelque chose de vrai. Rappelez, ah non, mon patron ceci, mon patron cela, il change de patron. C'était de nouveau le même problème avec le suivant. Un curriculum vitae, si vous vouliez le lire, il fallait passer 2 semaines. C'était tous des méchants patrons qui l'avaient rejeté. Et puis nous, on avait le même défaut, et tout le monde avait le même défaut. Aucune réflexion à ce sujet. Réfléchissez peut-être que si les autres me rejettent, c'est peut-être ma faute aussi quand même. Vous voyez ? Ayez cette humilité. Mais si les gens te rejettent sans cause, comme Jésus était rejeté sans cause, ne laisse pas la tristesse s'installer en toi. Prie pour cette personne qui te rejette sans cause. Prie. Vous voyez, on ne peut pas être la troisième personne, sans compte du troisième type. On ne peut pas. On ne peut pas être la troisième personne. On est forcément la personne numéro 1 ou la personne numéro 2. C'est-à-dire, on est forcément la personne qui a la paille dans l'œil ou la femme ou la personne qui a la poutre dans l'œil. On peut pas être, il n'y a pas de troisième personne. On est soit avec une paille, soit avec une poutre. Il n'y a pas de... Peut-être, oui, il y a peut-être une troisième avec une enclume dans l'œil ou un piano à queue ou ce que vous voulez. Mais enfin, de toute façon, on a quelque chose dans l'œil. De toute façon. Alors, sachant cela, sachant qu'on a... quelque chose dans l'œil. Prenons conscience de ce qu'on a dans l'œil et soyons compatissants envers les autres afin que les autres soient aussi compatissants envers nous. Et puis faisons avec toutes ces poutres et toutes ces pailles. Essayons un peu de nous les enlever délicatement en disant, voilà, j'ai une paille dans l'œil, j'aimerais bien que tu me l'enlèves. Ou j'ai une poutre dans l'œil, aide-moi. Soyez conscients de votre poutre ou de votre paille. Arrêtez de toujours voir... Ah non, moi je vois pas les poutres dans les yeux des autres, je vois des pailles. Bon, mais c'est déjà trop gros. Il faut arrêter de voir toujours chez les autres ce qui ne va pas. Regarde à Jésus, écoute Jésus. Il y a toujours un lumignon qui brille quelque part en toi. Jésus dit qu'il est celui qui n'éteint pas le lumignon qui fume. C'est un lumignon, c'est une petite mèche qui fumote. Souffle un peu dessus et ça repart. Va vers cette petite lumière tremblotante dans tes moments de tristesse et de ténèbres, là, quand tu te sens rejeté. Écoute Dieu dans le silence, dans la solitude. Il est bon pour l'homme de souffrir déjà dans sa jeunesse, parce que c'est Dieu qui le lui impose. Et alors, il le sortira de là. Il fera paraître ta justice en son temps, mais il est bon, c'est nécessaire. Écoute Dieu dans le silence. Il parle toujours avec amour, Dieu. C'est un pédagogue positif. Il ne fait pas peur. Il ne te dit pas des choses qui t'angoissent. Il ne te dit pas, par exemple, il y a quelque chose qui va t'arriver. C'est terrible, mais je ne vais pas te dire quoi. Ou bien, il y a quelque chose qui va arriver de désagréable. C'est au sujet des enfants dans la communauté. Mais je te laisse la surprise. Non. Dieu ne parle pas comme ça. Alors, il faut apprendre à écouter Dieu, mais il faut aussi apprendre à transmettre les messages de Dieu. Hein? Dieu ne fait pas peur. Il ne dit pas non plus des choses donc qui nous inquiètent. Il connaît tous les mécanismes de ton psychisme. Il connaît tous les mécanismes de ton corps. Il habite là-dedans. Il sait ta tendance à tout dramatiser. Peut-être pas toi. Moi, j'ai une tendance à dramatiser. Il y a un petit truc, j'en fais une montagne. Ah oui, oh là là. Puis, mais ça dure 5 minutes. Après, je m'en fous. J'ai aussi cette tendance. Donc, vous voyez, c'est... Heureusement. Voilà pourquoi quand il parle, Dieu, il parle de façon constructive. Parce qu'il connaît notre fragilité. Il nous parle de façon à nous vivifier. Il faut apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Parce que beaucoup de gens prennent leur propre voix pour la voix de Dieu. La voix, notre propre voix charnelle, elle parle fort. Elle accuse. Elle nous fait peur. La voix du Seigneur, elle est douce, elle est lumineuse, c'est clair. Et elle ne s'impose pas. Rappelez-vous, Dieu n'habite ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, mais il passe dans la brise légère. Ça vous rappelle quelque chose. Dieu ne va pas te parler de façon culpabilisante. Ça te découragerait. Ça te ferait perdre goût à la vie. Le diable parle comme ça. Toi, tu parles comme ça. Toi, tu te parles comme ça. Mais Dieu ne parle pas comme ça. Apprends à reconnaître quand c'est Dieu qui parle. Et même si tu t'es éloigné de lui, il ne va pas te parler de façon à te décourager. Il va peut-être être très net. Même des fois tranchant, mais jamais accusateur, jamais. Il n'appelle pas un chat, il l'appelle un chat, voilà, mais ce n'est pas accusateur, ce n'est pas dans le but de détruire. Parce que les paroles accusatrices, c'est ça détruit. Il va toujours mettre une lumière douce sur ce qui t'encombre, sur ce qui te sabote. Et puis, ce n'est pas les autres qui te sabotent. C'est toi-même. Avec ta façon charnelle de réagir à ce que les gens disent de toi, te disent, ou font. C'est toi-même qui te sabote. Personne n'a le pouvoir de te saboter. C'est juste toi, quand tu reçois l'information. Et ça t'empêche de participer à la joie. Alors, écoute ce que Dieu te dit ce matin. Tu n'es pas le mal-aimé. Tu n'es pas le mal-aimé. S'il y en a un, ce n'est pas toi. Il n'y a personne qui est mal-aimé. Bien sûr, certaines personnes ne t'aiment pas. Bon, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Des gens qui ne m'aiment pas. J'en connais. Mes frères et sœurs, ils ont l'esprit du monde. Parce que quand on est avec Dieu, on aime. Non, je me trompe. C'est comme ça. Comment les gens peuvent pas m'aimer? Pourquoi ils m'aiment pas? Même si je suis bourré de défauts, normalement, s'ils sont chrétiens, ils doivent m'aimer. C'est un commandement. Et si je suis dans l'erreur, et si je suis un escroc, un méchant, un gourou de secte, un faux prophète, ou tout ce que vous voulez, enfin tout ce qu'ils pensent, eh bien... Si, ils doivent m'aimer et ils doivent venir me reprendre avec douceur, avec gentillesse, et non pas aller baver avec leur grande langue. Ça, c'est le signe pour moi qu'ils ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu. Alors, ça me réconforte dans ma position, ça, vous voyez. Alors, si je suis dans l'erreur, ils ne m'aiment pas, ils ne m'aident pas. Vous voyez, vous analysez la chose comme moi. Ces gens qui ne vous aiment pas sont du monde. Ils n'ont rien à faire avec le peuple de Dieu. C'est normal que les gens du monde ne vous aiment pas. Ils n'aimaient pas Jésus. Ils ne peuvent pas vous aimer. Vous rendez compte? Ils n'aimaient pas Jésus qui était parfait. Comment est-ce qu'ils peuvent vous aimer, vous qui n'êtes pas parfait? Ils ne peuvent pas. Mais, surtout, mon frère, ma soeur, ne crois jamais que tes frères et sœurs ne t'aiment pas. Quand je parle des frères et sœurs, je parle des frères et sœurs de la communauté. J'ai rencontré un frère l'autre jour. Eh bien, il ne m'aime pas. Je l'ai rencontré, on a parlé 10 minutes. Mais je sais qu'il ne m'aime pas. Comment c'est possible? Parce que toutes les horreurs qu'il a dit, par exemple, sur les gens qui prient pour les malades et tout ça, je suis sûr que si je lui dis que je prie pour les malades, il ne va pas m'aimer. Donc je fais attention, je n'en parle pas. Mais je sais qu'il ne m'aime pas. Maintenant, à moi de me rendre aimable. Vous voyez? Et c'est un frère. Mais il est bouché à l'aimerie, il a des doctrines, des machins. Puis comme c'est une personne un peu vieille, il a plus de 35 ans, on est con. Au Burkina, si vous avez passé 35 ans, vous êtes un vieux. Eh bien, il a des difficultés. Donc c'est à moi de l'aimer, d'être patient, puis de... Mais c'est un frère. Maintenant, toi-même, fais tout pour être aimable avec tes frères et sœurs. Pas pour être aimé, tu es déjà aimé. Tu es aimé inconditionnellement par Dieu et par tes frères et sœurs. Inconditionnellement, tu peux faire le plus gros péché, tu seras toujours aimé. Est-ce que c'est ça l'amour que vous avez les uns pour les autres? C'est ça que vous avez? Oui ou non? Amen. Parce que ça, c'est important. Il faut que vous sachiez que vous êtes aimé inconditionnellement. Dieu m'aime inconditionnellement. Eh bien, nous avons à nous aimer comme Dieu nous aime, inconditionnellement. Nous sommes aimés inconditionnellement par Dieu et par ses enfants. Mais, il y a un mais, oui, ce mais, c'est à toi d'être aimable. Pas pour être aimé, mais parce que tu es aimé. Tu es aimé, alors n'en profite pas pour être désagréable. En disant, de toute façon, il doit m'aimer, alors, m'en fous. Comme le disait le frère Pierre, pas Pierre Hamelin, peut-être Pierre Hamelin l'a dit aussi, je ne sais pas, mais Pierre l'apôtre. En fait, il vous salue bien, Pierre Hamelin, je l'ai eu au téléphone. On dit Pierre Hamelin, mais en fait, il s'appelle Conique, hein, Dominique. Comme le disait Pierre Hamelin, Pierre l'apôtre, faites tous vos efforts pour ajouter à la foi. Vous voyez, il y a des efforts à faire pour être aimable. Faites tous vos efforts pour ajouter à la foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi-même. À la maîtrise de toi-même, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour, l'amitié fraternelle. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. Vous voyez qu'il y a une différence entre l'affection ou l'amitié fraternelle et l'amour. C'est pourquoi, dans la communauté, par exemple, il y a des gens pour qui j'ai de l'affection fraternelle, puis d'autres, c'est l'amour. C'est autre chose, c'est plus grand. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se rendent plus ou moins aimables. Mais je les aime tous, je vous aime tous. Mais ça dépend. Ça va? C'est un peu plus difficile de l'aimer que celui qui dit, oui, et toi, ça va aussi? Vous comprenez? Je pense que dans notre vie communautaire, alors on a pris des habitudes, et je crois, frères et sœurs, que la piété, c'est le point, c'est ce qui est le plus important. C'est pourquoi c'est très difficile de définir ce que c'est que la piété. Être pieux, c'est vivre avec respect, avec loyauté, avec obéissance envers Dieu et envers sa famille qui est l'Église. C'est ça la piété, en fait. C'est vivre. Je trouve une bonne petite phrase. Pierre, il souligne la piété dans 2 Rois, le même passage, dans 2 Rois, dans 2 Pierre, le même passage que je vous ai lu tout à l'heure au sujet de la vertu, la patience et toutes ces choses. C'est dans 2 Pierre 1, verset 3, il dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Voilà, alors, la vie, nous l'avons. Il dit « Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. » Vous avez la vie, vous avez reçu la vie, c'est-à-dire vous avez reçu son esprit. Nous l'avons. Maintenant, la piété, c'est quoi? C'est la manifestation de cette vie. Vous avez cette vie, maintenant il faut la manifester. La piété, c'est la manifestation de cette vie que vous avez reçue. C'est ça la belle petite phrase. Que demander de plus à Dieu? Vous avez la vie, nous avons la vie. Maintenant, c'est à nous de la manifester. Ça, c'est la piété. Manifestez-la donc. C'est ça, se rendre aimable. Vous êtes aimé, c'est la base. Maintenant, manifester cette vie, ça, c'est se rendre aimable. La piété, c'est la vie de Dieu manifestée par ses enfants. Que chacun de nous prenne ça au sérieux et se mette à dire, voilà, je veux être quelqu'un de pieux. Ça ne veut pas dire ennuyeux, ça ne veut pas dire qui se prive d'un tas de trucs bonnards. Être pieux, c'est se rendre aimable, c'est manifester la vie de Dieu. La vie qui est en nous, c'est la manifester à l'extérieur. Par toutes sortes de choses. Manifester la vie de Dieu, ce n'est pas seulement faire marcher les paralytiques. Manifester la vie de Dieu, eh bien, c'est toutes ces gentillesses, ces petites choses qui passent inaperçues, mais qui rendent la vie
plus douce, plus facile à vivre pour les autres, hein? Surtout quand on vient ensemble, qu'il y ait le moins de frottement possible, qu'il y ait de l'huile, afin que les rouages tournent bien et que ça ne fasse pas... D'accord. Merci Seigneur de bénir cette parole dans nos cœurs. Merci mon Dieu de nous aider à la vivre de manière évidente. Je te prie Jésus que, alors que je serai parti pendant ces 3 semaines, mes frères et sœurs fassent des progrès, que moi aussi je fasse des progrès. Et que dans 3 semaines, quand nous nous retrouverons, nous n'aurons que des bonnes choses à dire, parce que nous aurons vécu que des bonnes choses ensemble. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce qu'ils ont donné, afin que je puisse apporter là-bas, au Burkina, pour aider ces pauvres. Je te remercie Seigneur, parce que je ne pensais pas avoir autant. Je te bénis mon Dieu pour chaque don qui a été fait, et pour tout cet amour que je ressens dans mon cœur, qui m'est donné, qui m'est apporté. Je te prie Jésus de leur rendre cela au centuple dans leur vie, dans leur existence, pour qu'ils puissent être bénéficiaires de tout cet amour aussi. Merci Seigneur Jésus de permettre qu'ils se fassent des miracles, des prodiges là-bas au Burkina, pour que des gens qui souffrent puissent être délivrés, pour que le diable recule et que ta bonté, ton amour puissent être manifestés au travers de Nicolas et de moi-même alors que nous prêcherons. Merci Seigneur Jésus d'arranger toutes choses et de permettre que tout se passe très très bien dans la paix, aussi bien là-bas que ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis aussi vous qui écoutez ce message sur le net, recevez cette assurance des choses que je viens de vous enseigner et recevez-les avec simplicité de cœur afin de pouvoir les vivre avec simplicité de cœur aussi dans le nom de Jésus.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, aujourd'hui il fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, aujourd'hui sa voix appelle. Toi, essuyer les larmes de leurs yeux. Chantez au Seigneur un chant nouveau, aujourd'hui il fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, aujourd'hui sa voix appelle. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, au nom du Christ, pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, ouvre la porte et Jésus entrera, souffler avec toi.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.